Élection des sénateurs ce vendredi dans toutes les provinces de la RDC. Ces représentants des provinces devront constituer la chambre haute du Parlement. Ils sont élus par les assemblées provinciales. Ces dernières ont du reste eu leur bureau définitif le dimanche dernier. Mixage des troupes fidèles à Laurent Kunda et FARDC. L'opération qui devait débuter jeudi dernier a été renvoyée à ce samedi. Mais déjà, sur le terrain, les préparatifs vont bon train. La semaine de travail en RDC n'a débuté que ce jeudi, après 3 jours déclarés chômés sur toute l'étendue du territoire national. Ces journées étaient payées pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, pour ceux qui vivent au jour le jour et autres opérateurs économiques. C'était un manque à gagner. Ce sont là les faits marquants de la semaine qui s'achève. Nous commenterons cette actualité avec 4 confrères. Dans ce studio, nous avons John Ngomboa, journaliste à la chaîne de télévision Antenne A. Vonvon Kasongo, rédacteur en chef à la chaîne de télévision Télékin Malebo TKM. Depuis Lubumbashi, au téléphone, nous aurons Rose Lucano Tchakwiza, directrice de la radio-télé Mwangaza. Henri Gérard Ekebe, rédacteur en chef à la RTNC Mbandaka, lui aussi sera au téléphone. Bonsoir à nos confrères et consoeurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs.
Bonsoir.
Nous le disions tout à l'heure, l'élection sénatoriale s'est tenue ce vendredi. Les assemblées provinciales doivent avoir élu les sénateurs qui devront représenter leur province au niveau de la Chambre haute du Parlement. Cette élection s'est déroulée sous la supervision de la Commission électorale indépendante et en présence des observateurs nationaux, de la MONUC et des témoins des partis politiques. C'est l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle, et l'Union pour la Nation qui se partagent l'essentiel des postes dans les 11 assemblées provinciales que compte le pays. L'AMP est en tête dans 7 provinces et l'Union pour la Nation dans 4. Des détails avec Babel Mpongo.
L'Alliance pour la majorité présidentielle a rassé tous les postes au Bandundu, au Katanga, au Sud-Kivu et dans la province orientale. Elle occupe 4 postes sur les 5 prévus au Maniema, au Nord-Kivu et au Kasaï oriental, 2 au Kasaï occidental et 1 dans le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. L'Union pour la Nation, qui est en tête dans 4 provinces, occupe l'exclusivité des postes à Kinshasa et au Bakongo. Elle a 4 postes sur les 5 dans la province de l'Équateur et 3 au Kasaï occidental. Elle obtient également la question au Nord Kivu. Le RCD d'Azarias Roubirois s'en sort avec 1 poste de rapporteur au Maniema et celui de questeur au Kasaï oriental. Comme on le remarque, là où un camp a beaucoup de députés provinciaux, c'est ce camp qui dirige aussi le bureau de l'Assemblée provinciale. Reste à savoir si cela pourra aussi se refléter dans les élections sénatoriales de ce vendredi.
Merci Babel. John Ngomboa, vous êtes journaliste à la chaîne de télévision Antenne A. On a assisté à une véritable effervescence ou engouement lors des dernières opérations électorales en RDC, mais cette fois-ci, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce parce que l'élection sénatoriale est moins importante ou parce qu'elle n'est pas bien comprise au sein de l'opinion?
Je crois que ce serait à tort qu'on ne s'intéresse pas à ces échéances. En assemblée, c'est focalisé sur la présidentielle, sur aujourd'hui l'assemblée, la députation nationale. Et un peu, moi je peux dire, dans les préacquis de l'ancien fonctionnement de l'État. Mais aujourd'hui, une chose est certaine, avec le fédéralisme, l'État va fonctionner davantage au niveau, comme on dit, de la base, c'est-à-dire au niveau des provinces. Ça, c'est pour la députation provinciale. Et les provinces, certaines provinces qui seront mieux loties. On connaît traditionnellement chez nous, jusque-là, les Katanga, on a Kinshasa, on a le Bas-Congo. Ces provinces-là peuvent avoir un budget suffisamment important pour pouvoir entretenir les animateurs autant mieux, sinon plus qu'au niveau national. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le Sénat, aujourd'hui, n'est pas la moindre des choses. Vous savez que c'est le président du bureau du Sénat qui remplace le président de la République en cas d'empêchement quelconque. Et donc, je pense qu'on ne devrait pas négliger tout cela et penser davantage aujourd'hui que la politique, désormais dans notre pays, va cesser de partir de Kinshasa et que la politique va être faite au niveau local et que, de ce point de vue, on devrait changer aussi des centres d'intérêt.
Vovon Kasongo, vous êtes rédacteur en chef à la chaîne de télévision Télékine Malébo, TKM. Comment jugez-vous ces scrutins?
Bon, ce qu'il faudrait dire, on a l'impression que la campagne n'est pas aussi animée que les précédentes campagnes, enfin, des premières élections. C'est tout simplement, il n'y a pas que l'enjeu n'est pas important, mais l'enjeu, je dirais, il est d'une certaine manière interne parce que les sénateurs, les gouverneurs vont être élus par les grands électeurs. C'est-à-dire qu'ils vont être élus par les députés provinciaux. Donc la campagne, je dirais, elle est un peu, quelque part, d'une certaine manière secrète, parce qu'elle n'est pas faite comme c'était au premier tour, où c'était les différentes populations qui devaient voter les différentes autorités.
C'est là une explication, parce que les sénateurs, vous savez, sont élus par les députés provinciaux, et la campagne a eu lieu au sein des assemblées provinciales. Mais au premier tour, deuxième tour, là, on avait affaire aux députés nationaux, on avait affaire à l'élection présidentielle. Là, c'est la population qui devait élire.
Justement, donc, il ne faudrait pas conclure et dire que l'enjeu n'est pas aussi important. Comme vous le savez, le Sénat, la Chambre haute, a un rôle important à jouer en ce qui concerne la Troisième République. Donc, autant qu'il en est pour le gouverneur, les qui sont responsables des différentes provinces. Donc, l'enjeu aussi de taille, mais à la différence des premières élections et que la campagne se déroule pas de la même manière comme il était le cas au premier tour.
Henri Gérard Ekebe, vous intervenez à partir de Mbandaka en Équateur. Vous êtes rédacteur en chef à la RTNC Mbandaka. Votre réaction?
C'est comme le confrère vient de dire tout à l'heure. L'enjeu est là, certes, mais c'est la réduction de l'électorat. Parce que l'élection présidentielle, l'élection de députés nationaux, c'était au suffrage universel. Donc c'est la population qui avait voté. Donc il y avait un nombre assez important d'électeurs. Mais cette fois-ci, comme il s'agit de sénatorial, c'est les grands électeurs, donc les députés provinciaux, ils sont en nombre réduit. Et c'est ainsi que les candidats sénateurs ont préféré se confier à leur électorat, notamment les députés provinciaux. C'est ainsi qu'il y en a même un qui avait été abordé par la presse. Il a estimé que non, ce n'est pas la peine de passer au niveau de la radio, expliquer tout ça. Il comptait simplement réunir les députés provinciaux, s'entretenir avec eux, parler avec eux. Donc c'est ce qui a fait que la campagne n'a pas été aussi menée tambour battant comme c'était au niveau des présidentielles et de l'élection de députés nationaux.
Alors nous sommes à présent à Lubumbashi, Rose Lukanoutia Kouiza, vous êtes directrice générale de la radio-télé Mwangaza. Est-ce que le mot de scrutin vous paraît intéressant?
Je dirais pour la sénatoriale, le jeu démocratique manque au grand désarroi des analystes politiques. C'est vrai que au premier tour de l'élection législative, premier tour et deuxième tour pour la présidentielle, pour la députation nationale et provinciale. Et c'était très intéressant de voir comment, comme l'a dit John Ngombwa, comment que le peuple qui était au centre de ce jeu politique, parce que lui qui devait conférer le pouvoir, la légitimité à ses représentants, il faut dire qu'on l'a vécu il y a des années dans ce pays, l'opinion commençait à croire quand même à quelque chose, le fait qu'on détenait le peuple, c'est le peuple qui détenait réellement le pouvoir. Bien sûr qu'au niveau de la sénatoriale, c'est les grands électeurs qui élisent, mais nous aurions voulu observer le même jeu démocratique, c'est-à-dire les élus au niveau provincial puissent réellement entretenir ce jeu démocratique pour pouvoir cette fois-ci désigner leurs représentants au Sénat. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis? Déjà, de par la constitution des bureaux de l'Assemblée provinciale, c'est vraiment des consignes qui sont données et qui sont observées. Certains disent que c'est normal, c'est aussi une forme de démocratie, mais d'autres aussi déplorent ça. C'est quand même...
Rose,
oui,
Rose,
on a l'impression
Des consignes qui viennent d'où et qui vont où?
Oh, mais des consignes de
consignes de vote.
Politiques pour, voilà, pour désigner tel et tel. Et là, à ce niveau-là, c'est-à-dire le jeu démocratique au niveau des élections devait se poursuivre. On aurait voulu que la campagne déjà soit battante au niveau des grands électeurs, mais ce n'est pas ce qu'on a vécu déjà quand, au départ, la constitution des bureaux de l'Assemblée. Pour le cas d'espèce, je parle de l'Assemblée provinciale du Katanga, et aujourd'hui encore pour le vote de sénateurs.
Donc vous estimez que la campagne s'est déroulée de manière un peu en catimini, et là, tous les jeux étaient permis.
Les jeux étaient déjà faits. Bien sûr, comme la CI a donné les instructions, il fallait une campagne pendant trois jours, qui devait se faire devant les députés pour les sénateurs. Je veux dire, le dernier jour de la campagne électorale, nous voyons dans les différentes composantes des districts, c'était vide, il y avait à peine des députés. Ils n'avaient pas allé écouter les différents candidats du moment où ils avaient sûrement le profil sur les hommes à élire. Donc, c'est ça qui manque un peu, c'est ce jeu démocratique que nous aurions voulu que ça se poursuive.
Oui, je vous ai suivi. Rose, vous semblez aussi dire que les journalistes n'ont pas eu à jouer un grand rôle dans ces élections. Vous auriez voulu qu'il y ait une participation, que tout soit fait à ciel ouvert, qu'il y ait une participation des journalistes politiques, c'est ça? Vous avez été exclu, vous?
Non, pas du tout. Le tout chez nous s'est fait dans la transparence, c'est-à-dire les plénières, tout était ouvert au public. Nous avons pris part à toutes ces plénières, à toutes ces cérémonies, mais c'est là justement que nous disons il a manqué quand même ce jeu démocratique. Donc on se dit, bien sûr, nous connaissons la configuration politique de notre Assemblée, mais on aurait souhaité quand même voir que l'élection se tenait en bonne et due forme, c'est-à-dire des gens mandatés par le peuple devaient élire en âme et conscience les gens qu'ils voulaient, et non qu'ils élisaient, qu'ils allaient voter. Ces gestes-là étaient plutôt équités, pour eux la différence.
Il semble
que c'est aussi une forme de démocratie, mais c'est facultatif, hein.
Merci beaucoup, Rose, pour votre intervention. Passons au second thème de cette tribune de la presse. Mixage des troupes fidèles à Laurent Kunda et les FARDC. L'opération qui devait débuter jeudi dernier a été renvoyée à ce samedi sur le terrain. Les préparatifs vont bon train. Selon la dernière nouvelle qui nous parvient de Goma, on apprend que la structure militaire d'intégration SMI a lancé ce vendredi à 10h30 à Mueso, près de Kichanga, en territoire de Masisi, l'opération d'identification de près de 600 soldats de la 83e brigade, jadis fidèle à Laurent Kunda, en préparation du processus de mixage de ces soldats avec leurs camarades d'autres brigades de la 8e région militaire. Les commandants de la 83e brigade, le colonel Kabunji, a été le premier à être recensé. D'autres hommes de troupes sont en train de recevoir leurs macarons d'identification. Les responsables de la SMI sur place à Mueso ont déclaré à l'envoyé spécial des radios Okapi à Kichanga que cette opération d'identification ou de recensement pourrait durer 4 à 5 jours. Avec notre confrère Didas Namujimbo, voyons ce que l'on peut comprendre par les termes mixage. L'entretien avec Didas est conduit par Georges Kamujova.
Bonsoir Didas Namujimbo.
Bonsoir Georges Kamujova.
Alors Didas, vous étiez à Kichanga il y a deux jours, quand se préparait le mixage. Mais en quoi consiste ce mixage lui-même?
Selon les explications que nous avons obtenues auprès du commandant de la 8e région militaire à Kichanga, le mixage est en fait une nouvelle forme de brassage instituée par les autorités congolaises et qui est appliquée pour la première fois avec les militaires fidèles à Laurent Kunda, c'est-à-dire ceux de 81e et 83e brigade. Mais contrairement au brassage dans lequel les militaires candidats à la démobilisation sont récupérés par la CONADER, et ceux qui optent pour l'armée réintègrent cette dernière à travers la SMI, la structure militaire d'intégration, Eh bien, le mixage est simplement une sorte de mélange des troupes en vue d'un objectif commun, tel que expliqué par le général commandant de la 8e région militaire, le général Ngizo Siatilo. Dans les cas présents, Georges, selon Laurent Kunda, ce mixage qui devrait débuter en principe ce jeudi à Kichanga devra voir les militaires de la 14e brigade des FARDC et ceux des 81e et 83e brigades mélangés pour former une ou deux brigades mixées.
Et vous vous êtes entretenu personnellement avec Laurent Kunda lui-même dans son fief à Kichanga. Quelle va être sa contribution dans ce mixage?
Laurent Kunda confirme qu'il va effectivement envoyer plus de 1000 hommes au mixage. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, mais Georges, c'est un son que nous avons enregistré sur une montagne. Je vous prie donc de bien y prêter attention.
Allez, allons-y, on va y prêter attention.
Pour la première brigade, je vais donner un bataillon 600 hommes. Progressivement, la semaine prochaine, c'est à Rutshuru qu'on va former à la deuxième brigade. Et je vais donner deux bataillons, donc à peu près 1200. Je pense que tout le monde tient encore à ses engagements. Tout est prêt, la logistique est déjà installée. Même le général Guizot et le général Bosco Ntaganda sont descendus là-bas pour préparer l'arrivée de ces militaires. Donc je dis sans faille, à moi qui est neige, on va lancer la première brigade.
Alors on a écouté cette confirmation de Laurent Kunda sur l'envoi de ses troupes et Didas, les habitants de Kichanga qui voient défiler les militaires des deux camps, comment interprète-t-il ce mixage?
Il faut dire que moins de deux mois après les affrontements de Kichanga et de ses environs, des affrontements qui ont eu un impact sérieux jusque même dans Goma, les habitants de Kichanga en particulier espèrent de tout cœur voir un vent de paix et de cohabitation pacifique souffler pour une fois dans leur contrée. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les explications du président d'une ONG locale, une ONG très active dans les milieux, ça s'appelle ACODRI, Action Communautaire pour le Développement Rural Intégré.
La population de Kichanga, ils n'ont pas encore vraiment confiance, mais ils espèrent parce qu'ils voient déjà les généraux qui se promènent ensemble, les militaires des FARDC, mais ils ne voient pas la réalité, ce qu'ils vont faire. Ils voient quelle est l'occupation quotidienne, ils voient que les militaires, il n'y a aucun militaire qui dérange, ils voient que la situation normale qu'ils espèrent avoir pour les prochains jours jusqu'à une longue durée.
Voilà, Georges, ce qu'on peut retenir concernant les préparatifs de ce mixage pour le moment.
Merci beaucoup Didas Namujimbo et bonne soirée à Goma.
Merci, Georges.
Voilà, merci Georges, merci Didas. Henri Gérard Ekebe, rédacteur en chef à la RTNC Mbandaka, comment analysez-vous cette étape de mixage entre les 81e et 83e brigades fidèles à Laurent Kunda et les FARDC?
Il y a amertume et pincement au cœur à la fois. Parce qu'en fait, nous venons de constater tout à l'heure là que les autorités militaires de la FARDC disent avoir adopté une nouvelle forme de brassage. Je veux savoir pourquoi adopter une nouvelle forme de brassage en ce qui concerne Laurent Kunda. Est-ce là, les autres formes utilisées de brassage ont montré leurs limites? Est-ce parce que lui-même exige qu'il ait cette nouvelle forme de brassage? Je crois comme qui dirait, les FARDC ne sont pas parvenus à trouver solution au bout des canons et se présentent maintenant comme en position de faiblesse. Et qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une nouvelle forme de brassage pendant que les autres unités, les autres composantes et tout ça, RSCD, MLC, qui avaient des troupes armées, on s'acceptait le brassage, la première forme, et si on parle aujourd'hui de nouvelles formes. Je crois que cette position-là, les FARDC se présentent en position de faiblesse. Je crois que ce n'est pas vraiment heureux pour une armée nationale qui n'est pas parvenue à mettre un terme à une mutinerie et qui arrive à négocier. Et on sait même que le président de la République avait déclaré il y a des mois qu'on ne négocierait pas avec Laurent Kunda. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à négocier? Certainement qu'on est en position de faiblesse. On veut bien qu'on dise que c'est pour la paix à tout prix, mais on aurait voulu quand même que les FARDC puissent montrer à la face de la nation et du monde que non, on a quand même une armée forte, capable de mettre un terme à une mutinerie. Mais quand cela ne tient, nous pensons que bon, la paix à tout prix, je crois que si cette nouvelle forme va donner des résultats escomptés, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose.
Vombo Kasongo, rédacteur en chef à la chaîne de télévision Télékine Malebo, TKM, cette opération de mixage pourrait résoudre les problèmes d'insécurité qui prévaut dans les Kivu, selon vous?
Bon, d'abord, j'aimerais donner une petite précision. On entend dire qu'il est prêt à donner 600 hommes qui forment presque
toute une brigade.
Ouais. 1200 hommes qui forment deux brigades. Mais nous le savons, l'histoire, j'ai l'impression que l'histoire bégaye parce que ce n'est pas une première. Oui, ce n'est pas une première. Laurent Kounda, ses hommes, ses fidèles ont déjà eu, je crois, si je ne me trompe pas, à intégrer d'une certaine manière l'armée et ils ont eu à se rebeller plus d'une fois. Donc je crains fort que Laurent Kounda ait à claquer les doigts pour qu'aussitôt ses fidèles reviennent dans ses rangs. Pour moi, j'estime que ça ne résout pas le problème. Bon, d'abord, on doit revenir en amont. Nous savons que veut Laurent Kounda. Bon, on imagine, on s'est dit qu'il emmène une croisade juste pour défendre l'intérêt des siens, c'est-à-dire celle de sa communauté. Ce qui est tout à fait légitime. Mais ce qui est regrettable dans cette histoire, Laurent Kounda, il y a des forts soupçons qui pèsent sur lui. Il y a même un mandat d'arrêt qui pèse sur lui. En principe, Laurent Kounda devait se retrouver derrière le barreau. Nous, on ne comprend pas comment le gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement l'armée congolaise, soit aujourd'hui contrainte de négocier avec un officier qu'elle-même a déchu. Parce qu'il faut reconnaître que l'armée a reconnu certains faits à Laurent Kounda. On a l'impression que le gouvernement de la République traite cette affaire avec une certaine complaisance à l'égard de Laurent Kounda.
Donc vous estimez que c'est un signe de faiblesse, comme l'a dit, bien
oui,
sûr.
Je considère que c'est un signe de faiblesse. Je serais même plus sec en disant que je parlerais même de complicité. Parce que moi, je ne comprendrais pas comment Laurent Kounda, qui est radié de l'armée, Laurent Kounda, il y a un mandat d'arrêt qui pèse sur lui. Mais l'homme, il est en villégiature à l'Est, il tient des meetings. J'apprendrais même qu'il s'est traversé en leader d'un parti politique, c'est fort regrettable. D'ailleurs, vous le savez, dernièrement, on aurait appris que les revendications de Laurent Kounda sont parties du fait qu'il réclamait 650 000 dollars solde de ses hommes impayés depuis 11 mois. Donc, vous vous rendez compte, Laurent Kounda était payé. En fait, même si pas lui, mais ses hommes du mois étaient payés par qui et pourquoi? Ce sont autant de questions que nous devons nous poser. Mais bon, au-delà de ces débats, au-delà de cette polémique, au moins nous sommes fixés sur une chose, Kounda Batoir est une preuve que les élections en elles-mêmes n'est pas une fin en soi. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il faut une armée régulière, il faut une armée réformée et pour ça peut-être qu'en fait comme l'a dit mon confrère, tout le confrère qui m'a précédé, la paix n'a pas de prix, nous devons faire des concessions. Moi je suis d'accord qu'il y ait des concessions avec Laurent Kounda, mais j'exprime quand même une crainte, celle que Laurent Kounda fasse des émules plus tard. Et un dernier point, c'est par là je crois que je vais conclure à ce sujet. Moi, je crois que Laurent Kounda est une épine sur le parcours du chef de l'État, parce que nous ne devons pas oublier que le chef de l'État a été élu en particulier à l'Est,
en grande majorité.
Les électeurs viennent de l'Ouest. Et le chef de l'État a été élu parce qu'il était représenté comme l'artisan de la paix, comme les garants de la paix. Il ne suffit pas seulement d'acquérir la paix, mais la paix se maintient. Et c'est assez à quoi le chef de l'État doit justement se battre. Même au-delà de ça, les populations de l'Est ne demandent pas seulement avoir la paix, elles demandent aussi justice, que ces tortionnaires, que ces bourreaux soient sanctionnés. Et si tel est le cas pour Laurent Kounda, je crois que justice sera faite si Laurent Kounda se retrouve aujourd'hui derrière le barreau.
Merci Vonvon. Rose Kano Tchakouiza depuis Lubumbashi. Peut-on croire au retour de la paix dans les Kivu avec cette opération de mixage?
Non, je ne m'attarderai pas, franchement, à être si optimiste, Pelé. Cette question du mixage, hein, parce que c'est le nouveau vocabulaire, faut-il dire,
oui.
Entre les troupes de Laurent Kounda et les hommes de Laurent Kounda et les FARDC, vraiment, j'en fais une lecture à la fois positive et négative. Je dirais négatif d'abord pourquoi je m'interroge comme Vonvon. Écoutez, vous savez, souvent sur cette question, toutes les décisions que les autorités de notre gouvernement prennent, ce sont, il faut le dire, des décisions politiques, militaires, politiques. Souvent, l'information ne circule pas suffisamment. On ne nous dit pas suffisamment pourquoi, non, comme ça. On décide de négocier avec Kounda sans nous dire, nous fixer sur ce que devient le mandat d'arrêt international lancé à sa personne il y a quelques temps.
Dans le statut de Kounda qui n'est pas clarifié selon vous.
Justement, il n'est pas du tout clarifié. Et puis, on décide de négocier quelque part, c'est parce que c'est vrai, notre gouvernement est dans la faiblesse, mais je crois que l'homme même de Koundabatoire, s'il accepte aussi de négocier, c'est que quelque part, parce que il a aussi subi des défaites. Alors, on négocie sans nous fixer sur son statut et puis on va brasser ou mixer avec ses hommes, mais qu'est-ce qui garantit la paix? Et puis ça sert de mauvais exemple pour les autres. Vous savez, moi je suis dans une province où on a connu des rébellions avec le mouvement des Maïmaï, ça et là. Vous êtes sans ignorer qu'il y a encore des poches des résistances, ça et là. Mais pendant que nous entamons la Troisième République, où il doit se faire la rigueur en cette matière des rebelles au-dessus, mais voilà, on est en train de négocier avec un Koundabatoire.
Bon, donc comme bonbon, vous avez peur qu'il y ait à l'avenir un Kounda.
Qu'il y ait à l'avenir d'autres Kounda, et en fait lui-même, franchement, sachez bien comme il défend, comme on l'a dit, la cause des siens, sachez que c'est une bombe à retardement. On ne sait pas ce que Koundabatoire réserve. Alors, une autre lecture positive que je peux me faire,
peut-être
dans l'immédiat, par rapport aux populations, excuse-moi, Pélé, laisse-moi terminer, s'il te plaît.
Allez-y.
Par rapport aux populations de ce côté-là, qui ont souffert beaucoup, et que peut-être une... Allô?
Allez-y, on vous écoute.
Oui, une négociation de cette façon-là, ça peut rassurer. Ben, c'est vrai, on peut discuter, nous on est à distance, mais les populations sur place, celles qui ont subi des viols, tout autant d'atrocités, ils ont besoin peut-être d'un allègement de cette façon-là. C'est peut-être dans ce cas-là qu'on peut y accorder une attention, mais sinon en soi... C'est un mauvais exemple et je ne sais pas comment on cherche à rétablir la justice dans ce pays, mais que le gouvernement négocie avec un Koundabatoire, je ne sais pas où l'on va. Alors moi je mets en doute une quelconque affirmation de la paix dans la partie Est. Je doute fort.
Merci Rose.
Pour combien de temps ?
Merci Rose. John Ngomboa, vous êtes journaliste à la chaîne de télévision Antenne A. Votre lecture de cette opération de mixage ?
Bon, moi je crois que dans ce cas-ci, la fin justifie le moyen. La fin qui demeure, pour l'instant au moins, la restauration de la paix dans cette région. On s'est rendu compte d'une évidence, les FARDC, à cette étape-ci, ne sont pas encore une vraie armée. Nous savons, nous venons tous de là où nous venons. On a fait un brassage superficiel. De combien d'hommes disposons-nous? De quel armement disposent ces hommes? Quelle est leur motivation? Quel est leur solde? Pensez-vous qu'ils soient prêts à donner de leur vie? Ça, c'est des questions importantes. Or, pendant que nous nous posons ces questions, il y a des gens qui souffrent. J'estime que le chef de l'État doit avoir fait la balance entre la priorité de pouvoir mettre un terme à la souffrance et l'urgence d'une action disciplinaire. Je crois que il faut trouver quand même une commune mesure. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise solution compte tenu de la situation actuelle.
Donc, vous estimez, John, que à cause de la recherche de cette paix, de la paix dont a besoin la population de Kivu, donc on peut quelque part un peu fermer les yeux sur la justice?
Je pense que ce qui est conclu aujourd'hui entre les FARDC et les hommes de Kounda et Kounda lui-même, nous ne connaissons pas exactement les termes. Donc, il faudra essayer maintenant de voir dans quelle mesure est-ce que la justice sera-t-elle appliquée. Mais voyez-vous, comme disent les Anglais, c'est step by step. Le premier objectif, c'est d'abord la restauration de la paix. Dès que la paix est restaurée, ensuite on peut voir maintenant les rétablissements de la justice. Qui a fait quoi, pourquoi, ainsi de suite. Sinon, avec ce que nous avons sous la main, je crois qu'on risque d'avoir de sérieux problèmes. Et pendant ce temps, moi je pense que nous avons tous à gagner aujourd'hui à éviter des propos qui en rajoutent, qui allument le feu et tout ça. Laurent Kounda doit avoir eu un certain nombre de revendications. Je crois qu'aujourd'hui, j'espère que il en a discuté avec les chefs d'état-major général qui avaient effectué les déplacements de l'Est, et nous espérons que la solution sera trouvée. Mais qu'entre-temps, parce qu'il y avait il y a pas longtemps un bras de fer entre, si vous voulez, ceux qui voulaient l'application de la justice au bas de la lettre et ceux qui estimaient qu'il était nécessaire de négocier. Je crois que c'est un débat qu'on peut remettre pour plus tard, le temps de gagner, parce que les FARDC ne se trouvent pas dans la région de l'Est, là, en position de force.
Henri Gérard et Kébé, j'ai comme l'impression que vous voulez rebondir, vous voulez réagir au propos de John.
Oui, en fait, nous l'avons dit, on veut bien la paix parce que nous l'avons dit, le pays a traversé de longues périodes de guerre. Nous avons vraiment besoin de la paix et surtout la partie est du pays. Mais le problème, comme disait Rose tout à l'heure, il faut qu'on connaisse quand même, la population a besoin de savoir quel est le statut actuel de Laurent Kounda. Il a été déçu par l'armée. Il a un mandat international qui pèse sur lui. On négocie avec lui en quelle qualité? Il est encore général parce qu'il avait été déçu. Et dans le cadre, on a dit même qu'il a intention d'être un chef politique, leader d'un parti politique. C'est en ces termes-là qu'on négocie avec lui, parce que les gens voudraient savoir si aujourd'hui il a un mandat international qui fait suivi et que l'on veut négocier avec lui. C'est comme qui dirait la justice, on a dit tout à l'heure là, on veut instaurer un état de droit où la justice doit être rendue. Or, maintenant on négocie. Et je crois qu'avant qu'il n'ait cédé les troupes, c'est que certainement il a trouvé une certaine garantie sur sa position, sinon il n'aurait pas envoyé ses troupes. Mais nous voudrions savoir quand même quelle est cette position. En ce moment-là, on peut dire, bon, on peut négocier, on veut bien la paix, mais je crois qu'il faut une certaine fermeté, il faut un exemple. Sinon, si on dit aujourd'hui, bon, une amnistie, il peut l'obtenir, mais les autres pourraient, un autre, comme on a dit, un autre Laurent Kounda peut surgir aussi, parce qu'il sait que, bon, à un moment donné, on finira toujours par négocier. Moi, je crois qu'à un certain moment, il faut une certaine fermeté. Nous aurons vraiment aimé que l'armée puisse montrer de quoi elle est capable, la reddition des troupes de Kounda, qui serait en ce moment-là en position de faiblesse et qui intégrerait l'armée facilement.
On vous a bien compris, Henri. Vraiment, en quelques secondes seulement, je vois John qui veut vraiment rebondir aussi. Vraiment très rapidement, John.
Oui, je voulais dire ceci, que la fermeté et la justice exigent des moyens dont nous ne disposons pas. Il ne faut pas se voiler la face. Nous n'avons pas la capacité de coercition nécessaire pour mettre tout ça dans le même sac. Je pense que y procéder étape par étape est une stratégie qui ne exclut pas une autre. Ça n'exclut pas l'application de la justice. On restaure la paix et puis on applique la justice, sinon on va s'y perdre.
Merci, John. La semaine de travail en RDC n'a débuté que ce jeudi après 3 jours déclarés chômés sur toute l'étendue du territoire national. Ces journées étaient payées pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, pour ceux qui vivent au jour le jour et autres opérateurs économiques, c'était un manque à gagner. Voyons comment la population a réagi par rapport à ces 3 jours chômés. Ces réactions nous proviennent d'un peu partout à travers les pays.
Sinon, Macambo, je suis à Kikwit, dans la province de Bandundu. Ce n'est pas n'importe quelle mort, hein. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays. Je suis tout à fait d'accord que nous puissions commémorer leur mort pour ne pas les oublier dans l'histoire de ce pays. Il y a des journées fériées et payées. C'est tout à fait normal que nous puissions arrêter de travailler pour commémorer ces gens-là.
Je m'appelle Hortense, je suis en Mbujumaï. Il y a des gens qui vivent journalièrement, il y a des sociétés où les gens doivent travailler et on doit les payer journalièrement. Et si vous arrêtez les activités pendant 3 jours, ces gens-là, vous voyez que c'est une perte pour eux.
Comme aujourd'hui le marché pirate n'existait pas, le marché fermé, le magasin fermé, or il y a les autres. Ils peuvent prendre les marchandises dans l'une ou d'autres magasins pour fournir de l'autre côté. Et ils gagnent un petit rien pour survivre à la maison.
Moi, c'est Ignacy Ilunga depuis Kisangani. Alors, dire qu'il y a 3 jours qu'on n'a pas travaillé, c'est sûr qu'on n'a pas travaillé. Mais ce n'est pas une invention congolaise. Partout au monde, il y a les jours fériés. Et les jours fériés décrétés, chômés, payés par le gouvernement. Ce qui est tout à fait normal, je ne vois pas vraiment d'impact social qui peut être dans un sens, je dirais, négatif. C'est tout à fait normal qu'on pouvait commémorer nos héros nationaux. Et ça coïncide avec l'ordre du cardinal. On ne pouvait pas laisser un événement comme celui-là inaperçu.
Madame Zamba Viviane, je suis de la ville de Kinshasa. On peut faire par exemple quelques instants, 30 minutes de recueillement pour commémorer les morts, là ça va. Mais 3 jours d'affilée, ça c'est un manque à gagner.
Dani Lushanga, j'interviens à partir de Kikwit dans la province de Bandundu. Je pense que cette façon n'est pas bonne. Nous pouvions, par exemple, commémorer en un seul jour. Comme il y a eu deuil, il y a eu enterrement le lundi, on pouvait ramener tous les 3 jours à lundi et observer lundi, par exemple, seulement, et travailler les restes des jours. Je crois vraiment que si nous pensons à reconstruire ce pays, il faut travailler. Nous, les anglophones, nous disons « time is money ».
Je m'appelle Rigen, enfant de Kisasa. Bon, pour moi, c'est pas bien. Parce qu'il y a trois ferrés là. Toujours, moi, je recherche l'argent à moi pour entrer à la maison pour m'aider mon petit frère à moi. Il faut régler très bien les trois ferrés. C'est beaucoup. Là-bas, à la maison, il n'y a pas de moyens. Les mères à moi. Il est à la maison, il est très grave. Moi, je recherche l'argent pas. Je prie même rien, même 100 fois, même 200 fois, je prie pas.
Moi, je recherche l'argent pas. On peut comprendre un peu les grandes lignes de l'intervention du petit Rigen à partir de Kinshasa. Vonvon Kasongo, vous avez suivi les réactions de la population. Comment vous réagissez-vous par rapport à ces trois jours chômés?
Bon, là, je crois que nos auditeurs se sont largement exprimés sur ces sujets. Chacun a donné un point de vue. Les débats restent ouverts à ces sujets. Mais moi, je vais au-delà de ces trois journées qui ont été déclarées chômées et payées. Oui, alors, parce que nous focalisons toute notre attention sur ces trois journées, mais nous oublions que le congé, c'est aussi un état d'esprit. C'est justement cet état d'esprit que nous devons combattre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous le savez, pendant la Deuxième République, nous avons vécu dans un congé permanent, c'est-à-dire où passez-moi l'expression, la population dansait les sacaillons, ça, cette danse qui consiste à trémousser les hanches à l'honneur du timonier. Et de 1990 à 1997, à la recherche de la démocratisation, c'était encore un autre congé où, pendant que les politiciens, en fait, on était à la recherche de la démocratisation, certains politiciens recherchaient leur positionnement personnel, et entre-temps, les entreprises étaient pillées, les banques étaient pillées. Donc là, c'était encore un autre, en fait, je dirais que c'était encore un autre forme de congé. De 1997 à ces jours, il y a eu des libérateurs qui sont arrivés. Je dirais encore, c'était encore une autre période de congé. Donc pour moi, nous devons combattre plutôt ces congés permanents où on a l'impression que le Congolais ne travaille pas. Le Congolais, on le dit, quelqu'un l'a dit, le Congolais vit le jour au jour. Vous remarquez des fois, lorsque c'est l'opposition qui organise des journées, ce sont les autorités même du pays qui vous disent « Non, mais ils doivent pas faire ça parce que les Congolais vivent le jour au jour ». Donc vous remarquez que le Congolais, en permanence, il est en chômage déguisé en permanence. Et en plus de ça, on attend des expressions du genre « article 15, cette disposition sortie de nulle part qui invite les Congolais à… »
Dépouillez-vous pour vivre.
Oui, pour mieux vivre. Alors, moi, j'irai au-delà de ça aussi en disant plutôt que l'État congolais, c'est celui qui doit donner l'exemple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de modèle, nous n'avons pas d'exemple qui puisse inciter la jeunesse aujourd'hui au travail. D'ailleurs, l'État congolais lui-même, c'est un mauvais exemple parce qu'il suffit de voir comment l'État est en perpétuelle perfusion de la communauté internationale. L'État congolais a toujours la main tendue vers l'Occident particulièrement. Donc, je dirais, il se pose plutôt un problème à ce niveau. Il ne suffit pas de combattre trois journées de congé, mais il faut combattre plutôt l'état d'esprit qui consiste à faire de Congolais des éternels chômeur. Donc c'est ça en somme ma petite contribution.
Rose Lucano Tchakwiza de Lubumbashi, alors votre réaction, vous vous êtes bien reposé pendant trois jours?
Non, pas du tout, justement, tu sais bien que les, nous, justement, quand il y a congé, nous travaillons.
Eh oui.
Nous sommes comme l'hôpital, comme l'armée, hein. Il n'y a pas de repos.
Oui.
En fait, moi j'ai trouvé que je suis dit les différents intervenants. Je pense qu'ils ont dramatisé pour rien. C'est vrai, trois jours de congé, mais ce ne sont pas les trois jours qui sont institués, les jours de congé. Le chef de l'État a bien sûr décrété un deuil national, que la journée des obsèques, bien sûr, c'était sans compter que c'était le lundi qu'on allait procéder aux obsèques
du cardinal.
Alors, oui, je disais, c'est une simple coïncidence. Par contre, ce qu'il faut retenir, les Congolais qui se plaignent, franchement, écoutez, ils doivent savoir quand même qu'il y a un devoir de mémoire. Le 16, c'est le jour consacré à Monsieur Laurent Désiré Kabila comme héros national. Le 17, à Lumumba. Écoutez, nous ne pouvons pas oublier ces deux héros-là. Bien sûr, nous allons nous remettre, pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'on se remette à nos représentants au niveau du Parlement,
oui.
Pour légiférer là-dessus, qui décide des taxes exactes pour avoir une pensée à nos euros. Mais sinon, ce qui se fait jusque-là, c'est le 16 et le 17. On ne peut pas ne pas oublier ça. Mais ce que je demanderais peut-être pour être pratique, ce n'est pas pour encourager justement le fait que les Congolais vivent au jour le jour. C'est dire, même pour le deuil, le jour de l'obsèque du cardinal Etiaou, c'est vrai. Pour les services publics, on pouvait ne pas aller travailler, mais si comment se devait s'ouvrir. On est aussi une façon de pleurer à ces messieurs. Nous, on vous dit, nous, nous ne sommes pas plus, nous ne sommes pas moins congolais que les autres, nous, des médias.
On a bien compris votre réaction, Rose.
Mais... Ouais, moi, je trouve qu'on a dramatisé pour rien. Écoutez, voilà. C'est une simple coïncidence. D'accord. Il ne faut pas non plus, permets-moi de terminer, Télé. Il ne faut pas non plus...
rapidement, quelques secondes.
Les propos de l'exhortation du chef de l'État en ce qui concerne la récréation qu'on devait finir. Les gens, j'ai entendu des gens dire, voilà, on dit que finit la récréation, mais on continue. Mais attendez, il ne faut pas interpréter à tort et à travers cette exhortation. Le chef de l'État, quand il dit finit la récréation, ça veut dire que nous devons tous justement nous mettre au travail.
Voilà.
Mais toujours consacré aux héros, il n'y a pas un soi à confondre avec...
Merci.
Voilà.
Merci Rose, on a bien compris, merci. Henri Gérard Ikebe, rédacteur en chef RTNC Mbandaka, vous nous suivez, votre réaction rapidement?
Oui, bon, disons que, comme les autres confrères l'ont dit, vous savez que les Congolais vivent au quotidien, la plupart des gens ne vivent que chaque jour, on n'a pas assez de provisions, il est évident qu'on ait constaté que 3 jours d'affilée des congés, c'était un peu trop. Mais c'était une coïncidence, donc ce n'est pas que le calendrier officiel prévoit des congés comme cela, mais c'était une coïncidence. Mais il faut te dire quand même que chez nous en Mbandaka par exemple, en dehors de la messe qui a été célébrée, ben, je sais que les petits marchés et tout ça ont été ouverts. Et même la grande artère a venu pour son mis. Il y a même des commerçants qui estimaient que c'était trop 3 jours comme cela. Ils ont quand même l'après-midi essayé d'ouvrir les échoppes pour que les gens puissent acheter. Donc en fait, c'est pas mauvais. On dit que 3 jours d'affilée, c'était pas une bonne chose, mais je crois que nous devons quand même, comme Rose l'a dit, garder mémoire de Laurent Désiré Kabila et de Mary Patrice Lumumba qui sont morts les 16 et les 17. Donc c'est calendrier officiel. Mais sincèrement, la population a quelque peu regretté. Ceux qui travaillent savent que, bon, il y a même des fonctionnaires qui le vivent, quand ils vont au travail. Mais quand vous avez dit, c'était samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, les jours se sont suivis comme cela, dimanche c'est pas férié. Donc, 4 jours, ça a quelque peu peiné ceux qui se débrouillent au quotidien. Mais nous, on ne va pas dramatiser autre mesure, c'était une coïncidence, mais je crois que c'est passé.
Micro à vous, John Gomboa, journaliste à la chaîne de télévision Antenne A. 3 jours chômés, quelle est votre réaction?
Bon, je comprends ceux qui s'offusquent. Hein. Bon, mais ils doivent aussi comprendre que ceux qui sont décédés n'ont pas demandé à mourir hein, ce jour-là, de façon les jours qui se suivent, et que quand même on doit avoir un devoir de mémoire. Par rapport au devoir de mémoire, Rose a dit quelque chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais aussi insister. C'est-à-dire, il faudrait que le Parlement puisse instaurer ces genres de congés dédiés, notamment à la mémoire collective aux héros nationaux, et les identifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui estiment que tout le monde n'est pas tout à fait satisfait, parce que vous remarquerez par exemple qu'à côté de Patrice et Mary Lumumba, il y a Mpolo et Okito, les familles Mpolo et Okito, chaque 17 janvier, pleurent. Ils ont perdu les leurs, comme tout le monde, mais on n'en fait même pas mention. Et il y a aussi d'autres chefs d'État qui sont décédés, ainsi de suite. Voilà. Donc il faudrait penser à réhabiliter tout ce monde-là dans le respect de la mémoire collective nationale.
Merci beaucoup, John Gomboa. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Nous avons parlé de l'élection sénatoriale, c'est vendredi dans toutes les provinces de la RDC, du mixage des troupes fidèles à Laurent Kounda et les FRDC. Enfin, nous avons parlé de 3 jours chômés sur toute l'étendue du territoire national.
Merci à tous nos confrères, consoeurs invités. C'était John Gomboa, journaliste à la chaîne de télévision Antenne A. Vovo Kasongo, rédacteur en chef à la chaîne de télévision TKM, Telekin Malebo. Depuis Lubumbashi, nous avions au téléphone Rose Lucano Chakwiza, directrice générale de la radio-télévision Mwangaza, et Henri Gérard Ekebe, rédacteur en chef à la RTNC Mbandaka. Pour ceux qui nous ont ratés ce soir, la rediffusion en FM, c'est demain à 5h30, heure de Kinshasa, donc une heure de plus à l'est du pays. Vous pouvez nous réécouter aussi sur 11690 kHz, donc en ondes courtes, de 5h à 7h de la capitale congolaise. Retrouvez également cette émission sur votre site internet www.radiocapi.net. Vous pouvez y joindre aussi vos réactions. Restez en compagnie des programmes de Radio Capi. Bonsoir à tous.
Okapi, okapi.